pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 27 mai et pour ce dernier épisode de la saison, nous allons parler de la psychologie transculturelle.
Mais d'où vient cette approche de la psychologie? Pourquoi est-ce important de prendre en compte la culture dans la santé mentale et comment se déroulent les consultations?
Pour nous aider à comprendre, nous serons accompagnés de Frédéric Briens-Fouquet, psychologue et thérapeute principal de la consultation transculturelle de l'EPSM de Caen. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec la mise au point d'une nouvelle molécule pour lutter contre les cellules cancéreuses.
Et plus particulièrement contre les cellules ayant un fort potentiel métastatique et qui résistent au traitement. Ces dernières sont responsables de 70% des décès par cancer. Alors une équipe de recherche de l'Institut Curie, de l'INSERM et du CNRS se sont mis au défi de les éliminer. Et d'après leur découverte, ces cellules résistent au traitement actuel en accumulant des métaux comme le fer ou le cuivre.
Mais en quoi cette particularité est-elle intéressante?
Eh bien parce que les métaux dont se servent les cellules sont sensibles à l'oxydation, en gros ils rouillent. Les scientifiques ont donc mis au point une molécule, la phantomycine, qui s'immisce à l'intérieur de ces cellules cancéreuses résistantes pour provoquer leur mort par oxydation. Alors pour l'instant, l'efficacité de cette molécule a été démontrée en laboratoire dans des modèles in vitro, puis chez la souris. Il faudra d'abord étudier la tolérance de la molécule chez l'animal avant de lancer les premiers essais chez l'homme. L'intelligence artificielle pourrait transformer presque un emploi sur quatre dans le monde, d'après une étude publiée la semaine dernière par l'OIT, l'Organisation internationale du travail.
Selon ce rapport, 3,3% des emplois seraient exposés à un risque élevé de remplacement total par l'IA générative. Mais la substitution totale de l'humain reste une exception. Dans la plupart des métiers, 24% plus précisément, c'est plutôt une évolution partielle qui est à prévoir. Certaines tâches pourront être automatisées mais devront rester supervisées, donc les postes ne disparaîtront pas pour autant.
Et quels métiers seraient les plus concernés?
En première ligne, les emplois de bureau, notamment dans le secteur des médias, de l'informatique et de la finance. Dans les pays riches, cela risque aussi d'accroître les disparités de genre, puisque 9,6% des emplois occupés par des femmes sont menacés, contre 2,3% pour les hommes. Face à ces chiffres, l'OIT invite à anticiper, renforcer la formation continue, adapter les politiques publiques et surtout ouvrir un dialogue social pour éviter que l'IA ne creuse davantage les inégalités. Des équipes du CNRS, de l'Ifremer et de la flotte océanographique française vont cartographier l'emplacement de fûts radioactifs immergés dans l'Atlantique.
C'est près de 200 000 fûts de la taille d'un baril de pétrole qui ont été jetés dans les abysses entre 1950 et 1990. À l'époque, les grands fonds marins étaient réputés sans vie, y laisser nos déchets radioactifs ne semblait donc pas poser de problème. Mais voilà, à ce jour, personne n'est capable de localiser précisément l'endroit où ils se trouvent. Or, les retrouver permettrait de savoir si la radioactivité s'est échappée de ces barils et si oui, comprendre comment elle évolue dans les abysses.
Mais comment les chercheurs vont-ils s'y prendre pour les cartographier?
Ils ne vont bien sûr pas y aller à la nage, un robot autonome va s'en charger pour eux. Équipé d'un sonar, il va pouvoir repérer précisément les barils au fond de l'eau, à quelques mètres près. C'est une zone d'environ 6000 km² située à la latitude Nantes, à 600 km des côtes françaises, qui va être explorée à partir du 15 juin. La mission devrait durer un mois avec des résultats qui seront publiés sur un site internet dédié. Des chercheurs américains ont découvert comment adoucir la puissance du piment et la réponse se trouverait dans le piment lui-même.
Effectivement, la sensation de brûlure du piment provient des capsaïcinoïdes. C'est la teneur de ces composés chimiques qui est typiquement utilisée pour évaluer le degré de chaleur d'un piment sur une échelle appelée l'échelle de Scoville. Pourtant, en étudiant plusieurs types de piments, les chercheurs se sont aperçus que certains fruits étaient perçus comme moins piquants que d'autres à concentration égale. En analysant leur composition, ils ont dégagé trois substances, le capsaïcinoside 1, le roséoside et le ginger glycolipide A. Ce sont ces composés qui réduiraient l'intensité du piquant.
Et à quoi servirait cette découverte?
Au-delà de la question alimentaire, ces antipiquants pourraient aussi avoir un intérêt médical. D'après l'un des auteurs de l'étude, ils pourraient permettre de concevoir des médicaments sans opioïdes contre la douleur. Pour l'instant, cet antipiquant n'existe qu'en laboratoire. Il doit encore passer des tests sanitaires avant de pouvoir être commercialisé. Une nouvelle espèce de poisson a été découverte en Argentine.
C'est dans le parc national Chaco, tu l'as dit, en Argentine, que des chercheurs ont mis la main sur ce tout nouveau spécimen. Ce poisson de couleur grise et aux yeux rouges est baptisé Titanolebias calvinoi et serait à peine plus grand que la paume d'une main.
Mais au-delà de ses caractéristiques, il se distingue par son mode de vie.
Exactement, d'après les chercheurs, sa vie commence et termine dans de petites flaques d'eau. Avant de mourir, le Titanolebias calvinoi pond des œufs. Ces derniers seraient alors capables de survivre enterrés une fois les flaques séchées, en attendant les prochaines pluies, profitant de la formation de nouvelles flaques pour éclore. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, c'était il y a tout juste 94 ans, le 27 mai 1931, Auguste Piccard et son coéquipier Paul Kipfer devenaient les premiers hommes à atteindre la stratosphère.
Ensemble à bord d'un ballon à hydrogène, ils grimpent à une hauteur record de 15 781 mètres, une ascension spectaculaire qui leur a permis de recueillir des données précieuses sur les rayons cosmiques et l'atmosphère supérieure. Pour résister à l'air raréfié et aux températures glaciales qui avoisinent les moins 60 degrés à cette altitude, ils ont embarqué à bord d'une nacelle pressurisée, une sphère en aluminium conçue par Piccard lui-même.
Mais le vol n'a pas été de tout repos.
Effectivement, dès le décollage depuis Augsbourg en Allemagne, les deux pilotes font face à une météo agitée. Après seulement quelques minutes de vol, une fuite d'air menace l'intégrité de la cabine. Piccard et Kipfer doivent la colmater de toute urgence. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là. Bloqué par une corde, la valve permettant au ballon de redescendre ne fonctionne plus. Les deux hommes dérivent dans les airs pendant 17 heures avant de finalement atterrir sur un glacier en Autriche. Une aventure agitée qui n'empêchera pas Piccard de renouveler l'expérience un an plus tard.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Connaissez-vous la psychologie transculturelle ? Comme son nom l'indique, cette approche de la psychologie prend en compte la culture, la langue ou encore les représentations du monde propre au patient pour lui assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge plus adaptée.
Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Frédéric Briance-Fouquet, psychologue et thérapeute principal de la consultation transculturelle de l'EPSM de Caen. Bonjour.
Bonjour Cindy, bonjour Rose.
Alors déjà, en quoi la psychologie transculturelle se distingue de la psychologie plus classique ?
Eh bien, je crois que Rose a donné une définition assez intéressante et précise. Effectivement, la psychologie transculturelle s'intéresse et prend en compte dans le soin et comme levier thérapeutique la culture d'origine du patient. Donc, comme vous le comprenez, la psychologie transculturelle s'adresse à des patients qui viennent d'un univers culturel différent.
Et donc, comment on pourrait la caractériser plus précisément avec un exemple peut-être ?
Alors, plus précisément, il va s'agir de prendre en compte les représentations qu'a le patient de sa maladie et de ses problèmes. Car la façon dont on lit le monde, dont on lui donne du sens, dépend de notre culture. Nous sommes tous des êtres de culture et la façon dont on voit le monde et dont on voit les problèmes qui arrivent est codée par notre culture. La culture, ce serait comme une paire de lunettes qu'on aurait, au travers duquel on verrait le monde, et la correction est différente selon les différentes parties du monde. Quand on reçoit un patient, il est tout à fait intéressant de s'intéresser à la représentation qu'il a de son trouble. C'est-à-dire, est-ce qu'il va penser que c'est une manifestation de sorcellerie, c'est une manifestation de possession, etc. Et on a tout avantage à s'y intéresser et à le prendre en compte dans le soin.
Et d'où vient la psychologie transculturelle ?
Alors, la psychologie transculturelle, elle nous vient essentiellement de Georges Devreux, qui était psychanalyste et anthropologue franco-américain, et qui a fait une recherche sur les Indiens Mohaves, duquel il a écrit un article, un livre même, qui s'appelle « Psychothérapie d'un Indien des Plaines », qui a été d'ailleurs adapté au cinéma, et où il explique comment il s'est rendu compte de l'intérêt de la prise en compte de la culture de son patient dans la psychothérapie. Il est le fondateur d'un concept relativement complexe qui s'appelle le complémentarisme. Et le complémentarisme, c'est la prise en compte de plusieurs sens du discours du patient. Je donne un exemple. Si on a un objet au milieu de la table, la façon dont vous allez le voir, qui est en face de moi, est différente de la façon dont moi je vais le voir, qui est différente de la façon de quelqu'un qui serait sous la table, etc. Chacun voit une petite partie de l'objet. Et Georges Devreux nous explique que tout phénomène humain, s'il n'est expliqué que d'une seule manière, c'est comme s'il n'était pas expliqué du tout. C'est-à-dire qu'un phénomène humain est redevable de plusieurs explications. Exemple, une explication psychologique, une explication anthropologique, une explication linguistique. Et c'est ça qui est convoqué dans la clinique transculturelle, c'est ça qui fait la différence avec une approche de psychologie classique. C'est qu'on va convoquer plusieurs lectures du même phénomène.
Et donc, quand on est psychologue transculturel, on a besoin d'être psychologue et anthropologue et linguiste ?
Alors non, heureusement, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, on doit être en capacité effectivement d'avoir des notions anthropologiques qui vont nous permettre d'écouter le discours de notre patient à la fois d'un point de vue psychologique et d'un point de vue anthropologique. On utilise la méthode du décentrage, c'est-à-dire le décentrage, c'est la capacité qu'on va avoir à accueillir un discours d'un patient qui est très différent de nos représentations. Donc ça, ça se travaille, c'est vraiment une question d'habitude et d'acceptation. En psychologie transculturelle, il n'y a pas de personne sachante, c'est-à-dire qu'une représentation du monde est équivalente à une toute autre. Par exemple, si une maman vient avec un enfant qui présente ce qu'on appelle ici des crises d'épilepsie, mais qu'elle, elle dit que ce sont des crises de possession, c'est OK. On ne va pas du tout lui dire non, non, ce sont des crises d'épilepsie. La psychologie transculturelle, c'est pas du tout ça. C'est au contraire faire une place équivalente à notre présentation, à la sienne.
Et à quel moment l'approche transculturelle a commencé à avoir sa place dans les questions de santé mentale ?
C'est une discipline relativement récente qui a, je dirais, une cinquantaine d'années. Au départ, elle était surtout présente en Amérique et au Canada. Elle s'est développée de façon plus récente en Europe, avec comme chef de file, il y a eu évidemment Toby Nathan et actuellement Marie-Rose Moreau, qui est la chef de file de la psychiatrie transculturelle en France.
Et alors, vous avez déjà commencé à en parler, mais pourquoi c'est important de prendre ces différentes cultures en compte quand on soigne quelqu'un ? Est-ce qu'on s'est déjà rendu compte que notre psychologie très occidentale n'allait pas pour d'autres personnes ?
Alors, ce n'est pas qu'elle ne va pas, mais c'est qu'elle n'est pas suffisante. Et il est extrêmement important, je l'ai dit, on est tous des êtres de culture, on a tous notre façon de voir le monde qui est influencée par notre culture. Si on n'en tient pas compte, on va passer à côté à peu près de 70% du psychisme de notre patient. Donc on s'est rendu compte effectivement dans l'accueil de migrants qu'on avait des problèmes d'observance, les patients ne revenaient pas ou venaient peu. Et on avait vraiment du mal, ils ne suivaient pas forcément les soins qui étaient prescrits. Et on s'est beaucoup interrogé pourquoi. Et on s'est rendu compte que c'était parce que justement, on ne prenait pas en compte le sens que eux donnaient à ce qui leur arrive. Quand ce sens-là a toute sa place, on se rend compte que nos patients y reviennent, ils sont observants et on arrive à travailler avec eux. Donc c'est vraiment l'expérience qui nous a permis de constater tout l'intérêt de cette approche.
Justement, comment le lieu d'où on vient, la communauté dans laquelle on a grandi, ça influence notre psychologie ?
Ah, et ça, l'influence est considérable. La culture, elle est transmise déjà dans la relation mère-enfant. Hein, la façon dont on s'occupe d'un bébé est culturelle et transmet de la culture. On ne s'occupe pas des bébés partout de la même façon dans le monde. On n'a même pas la même représentation de ce que c'est un bébé partout dans le monde. Donc la culture, elle nous imprègne vraiment d'une façon fondamentale. La culture, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Ce n'est pas seulement la façon dont on s'habille, la façon dont on se nourrit. C'est beaucoup plus profond que ça. Et ça vraiment, construit notre rapport au monde.
Et donc quand on est psychologue transculturel, quelle place on donne aux croyances de nos patients ?
Alors déjà, on ne parle pas de croyance, parce que le fait de parler de croyance, ça a déjà une espèce de mise à distance. On parle de représentation du monde, des représentations du monde différentes. Nous, ici en France, nous sommes les héritiers du siècle des Lumières. Ce qui est très valorisé ici en France, c'est la science, c'est le visible, c'est le monde de la preuve, etc. Ça, c'est pas du tout universel. Dans beaucoup de sociétés, au contraire, le monde invisible a énormément de place et la question de la science est regardée avec un petit sourire en coin, comme nous, on pourrait regarder éventuellement, comme vous l'appelez tout de suite, les croyances. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que tout a la même place, tout a la même valeur.
À qui ça s'adresse exactement, cette forme de thérapie ?
Donc ça s'adresse évidemment aux migrants. Aux migrants, aux personnes qui viennent d'autres univers culturels et aux enfants des migrants également.
Et alors justement, quel rôle peut jouer la psychologie transculturelle dans des contextes de migration ou d'exil par exemple ?
Lorsque des patients venant d'autres univers culturels rencontrent des difficultés psychiques, des troubles psychiques, ils vont la plupart du temps avoir des représentations de ce qui leur arrive qui vont être différentes des nôtres. Il faut comprendre que notre système de santé ici en France, il émane de notre propre représentation culturelle des troubles, vous voyez ? Donc il est normal qu'il ne soit pas forcément très bien ajusté à d'autres représentations des troubles. Donc, la psychologie transculturelle vient généralement en seconde intention, c'est-à-dire qu'en première intention, le migrant, il va pouvoir aller voir le système de santé classique. Et parfois, ça va très très bien fonctionner. Mais parfois, effectivement, si le patient est très attaché à sa représentation de son trouble, s'il a l'impression qu'il n'est pas entendu, etc., ça ne va pas fonctionner. Donc la psychologie transculturelle, elle est sollicitée par les équipes de première intention, c'est-à-dire par des professionnels qui, à un moment, dans leur accompagnement de leurs patients ou de leurs usagers, se sentent en difficulté pour des questions qui relèveraient de la culture. Et c'est là qu'on va pouvoir faire appel à nos équipes de consultation transculturelle, où on va pouvoir essayer avec eux d'avancer sur ces questions-là en intégrant l'équipe qui a fait la demande.
Et alors, ça se passe comment, une consultation de psychologie transculturelle?
Alors déjà, ici à Caen, on propose une plateforme ressources en transculturel. Donc la consultation, c'est qu'un aspect de tout ce qu'on peut proposer au niveau de la plateforme. On propose également de l'accompagnement des équipes, de la formation des équipes, de la médiation culturelle. Il y a plusieurs choses qui sont proposées par notre plateforme. L'une d'entre elles, donc, c'est la question du soin avec la mise en place de consultations transculturelles. Ce sont des consultations groupales et en groupe de thérapeutes, pas en groupe de patients. Ce sont des consultations qui ont été pensées pour convoquer au maximum le matériel culturel. C'est pourquoi ce sont des consultations groupales, car dans beaucoup de sociétés, le désordre ou le trouble ne se traite pas en situation duel. C'est-à-dire que si vous prenez un patient qui vient d'un autre univers culturel dans votre bureau, en face à face, en lui posant des questions directes et en le regardant dans les yeux, il y a de grandes chances que ce soit plutôt inhibant. Au contraire, le fait d'être en groupe, c'est comme ça que se traite le désordre dans certaines sociétés et ça va être facilitant. Donc, lors de la consultation transculturelle, il y a un thérapeute principal qui va mener la consultation. À sa gauche, il y a un interprète, puisque les consultations se font dans la langue d'origine du patient, même si le patient est francophone. À gauche de l'interprète, il y aura le patient et ce qui fait famille pour lui. Il y aura l'équipe de première intention que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire les professionnels qui ont fait appel à la consultation transculturelle. Et le reste, ce sont des co-thérapeutes. Les co-thérapeutes sont eux aussi des professionnels du soin qui viennent, dans la mesure du possible, d'univers culturels différents, eux-mêmes. Et ils vont intervenir dans la consultation en parlant au thérapeute principal, ce qu'on appelle la parole indirecte. Il ne s'adresse pas au patient. Le patient, il a déjà un psychologue qui lui parle, ça suffit, on ne va pas lui en mettre 10. Donc l'écothérapeute s'adresse au thérapeute principal et vont donner des associations ou des images qui leur viennent par rapport au discours du patient. Par exemple, ils vont dire, bah tiens, moi, ça me fait penser à une rivière qui serait entravée par un rocher. Donc c'est un discours métaphorique. Ou alors, ils vont dire, bah tiens, moi, dans mon pays, dans ces cas-là, voilà comment on fait. Et en fait, ils vont participer au décentrage, c'est-à-dire à la convocation de multiples lectures des symptômes, des troubles au sein de la consultation.
Et alors, est-ce que vous auriez des exemples concrets de troubles comme ça qui ont été soignés via la psychologie transculturelle?
On ne va pas travailler sur le trouble lui-même, mais sur la représentation du trouble. En fait, c'est ça qui va être thérapeutique pour le patient. C'est que sa représentation puisse être entendue et travaillée. Par exemple, si on est sur une représentation de sorcellerie ou de possession, ça ne suffit pas de le dire. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc après, on va se retrouver dans une psychologie de type plus classique, dans une thérapie plus classique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller au-delà de ce discours-là. Alors d'accord, c'est une attaque sorcière, ok. Alors, de qui on pourrait imaginer qu'elle arrive? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une transgression? Voyez? Et on va comme ça un petit peu développer cette théorie pour y comprendre les enjeux et avoir accès en fait au fonctionnement psychique du sujet.
Et alors vous, pendant les consultations, donc vous êtes en groupe de thérapeutes, comment vous vous organisez pour que ce soit... On est quand même sur un groupe de professionnels, pour que ce soit pas oppressant peut-être aussi pour le patient en face.
Alors cette représentation d'un groupe qui serait un peu oppressant, voire un peu jugeant, c'est une représentation tout à fait culturocentrée, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, ici en France, on a plutôt cette idée que ça va être assez inhibant d'être en groupe, etc. Mais c'est vraiment nos représentations culturelles. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, être en groupe, c'est facilitant pour des gens de bien des sociétés. Après, effectivement, le déroulement de la consultation, il est très codé. Hein, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure aussi, c'est pas tous les psychologues qui vont parler aux patients. Il y a vraiment que le thérapeute principal qui mène la consultation. Vous voyez dans le triangle, thérapeute principal, interprète, patient. C'est là que se joue la consultation, qui va se dérouler comme une consultation psychologique relativement classique. Hein, si on va au-delà du matériel qui est évoqué, la question, ça va être la question d'amener le discours, etc. L'écothérapeute, ils ont un rôle bien spécifique d'amener au décentrage par les images ou les associations. Et ils parlent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au thérapeute principal. Donc c'est très codé, la façon dont la thérapie se déroule. Après, ça peut être parfois une seule consultation qui suffit. Et parfois, on part pour une psychothérapie de plusieurs années. Mais ça vient toujours en plus des soins de première attention, jamais à la place.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Frédéric Briance-Fouquet pour parler de la psychologie transculturelle et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais en quoi la psychologie transculturelle donc, peut changer nos façons d'écouter nos patients? Vos patients.
Oui, je pense encore au travers de cette question à la question du décentrage, c'est-à-dire que ce qui va nous, c'est comment on va donner crédit au discours de notre patient et non pas ne pas être dans une position sachante vis-à-vis de lui, mais au contraire, c'est lui qui va pouvoir nous donner des formes de savoir aussi. Va y avoir comme ça une co-construction de la représentation de son trouble ou de sa difficulté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans le culturalisme où il n'y aurait que la représentation culturelle qui aurait foi, mais il y a bien aussi la représentation psychologique qui a toute sa place, puisque le patient il est extrait de son univers culturel par la migration. S'il était au pays, on peut penser qu'effectivement il pourrait aller voir un marabout ou un tradit praticien et que ça pourrait suffire à l'aider. Là, il est extrait de son contexte culturel, de son groupe, de sa langue, etc. Donc les éléments culturels ne vont pas pouvoir être aussi thérapeutiques au pays. Donc du coup, il faut vraiment la co-construction des deux représentations.
Et justement, tout à l'heure, vous parliez de formation, mais comment on se forme à ce métier, à cette transculturalité, si je peux dire.
Oui. Eh bien, il y a des formations pour cela. La plus connue actuellement, c'est le diplôme universitaire de psychiatrie transculturelle de Marie-Rose Moreau à Paris. Après, je dirais que c'est une formation constante, c'est-à-dire c'est après les lectures, les séminaires, les colloques auxquels on peut participer. Mais déjà, ça donne une formation de base solide.
Et alors vous, comment vous vous en êtes venue à vous intéresser à cette approche de la psychologie?
En fait, je suis psychothérapeute en pédopsychiatrie dans un centre médico-psychologique où on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de migrants dans notre patientèle. Et donc notre chef de pôle, le docteur Andreau, avait en 2012 pensé à établir une formation institutionnelle à l'ethno-psychiatrie à laquelle j'ai participé. Comme ça, parce qu'il y avait de la lumière un petit peu. Sauf que vraiment, pour moi, ça a tout à fait sens, ça m'a beaucoup intéressée. Et de là, ça s'est généralisé dans un axe institutionnel de formation dans lequel j'ai pu effectivement suivre cette formation dont je vous ai parlé, le diplôme universitaire. Et à la suite de ce diplôme universitaire dans lequel j'ai pu rencontrer une collègue cannaise que je ne connaissais pas avant, Julie Delporte, qui est maintenant la coordinatrice de la plateforme. Et bien, à l'issue de ce DU, on a commencé à monter un groupe de réflexion sur Caen. Puis a débuté nos premières consultations en 2015, c'est-à-dire que c'est nos 10 ans, c'est les 10 ans de la plateforme transculturelle maintenant, et c'est ainsi qu'on a commencé à proposer du soin transculturel. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas toujours suffisant, enfin, c'est-à-dire que les personnes qui nous sollicitaient, les professionnels qui nous sollicitent, eh bien, la réponse à leur situation n'était pas forcément du soin pour les patients. C'était parfois eux qui avaient besoin d'être aidés dans leur positionnement par rapport aux usagers, etc. Donc c'est pourquoi on a continué à s'étendre depuis, on s'est transformé en plateforme, parce que donc au-delà du soin qu'on propose aux familles, aux personnes isolées, en périnatalité et aux mineurs non accompagnés, aux MNA, on propose donc désormais d'autres actions à destination des professionnels qui ont besoin d'être aidés.
Et comment vous travaillez justement avec les professionnels et les autres médecins sur ces questions?
Donc, il y a différentes modalités. En fait, c'est ça qui est chouette dans la clinique transculturelle, c'est que c'est très créatif. Hein, on n'est vraiment pas coincé dans des choses et on essaie de s'adapter tout le temps et de créer tout le temps des choses. Donc, ce qu'on peut proposer, des fois, c'est se déplacer en réunion d'équipe autour d'une synthèse, d'un patient, etc. pour apporter un éclairage transculturel. On peut proposer des régulations d'équipe. On peut proposer aussi de la médiation, c'est-à-dire... en présence de l'équipe et du patient quand il y a un conflit qui doit être géré rapidement. Je donne un exemple, un patient qui doit prendre un traitement, il y a vraiment un enjeu vital pour lui, il doit le prendre et il ne veut pas le prendre pour des questions culturelles. Donc là, on peut organiser ce qu'on appelle une médiation transculturelle où il y aura effectivement le patient, l'équipe qui sont au cœur de ce conflit et nous on vient en médiation avec un interprète toujours, on travaille toujours avec des interprètes. Voilà, ça c'est des exemples de choses qu'on peut proposer. Et puis aussi beaucoup beaucoup, c'est de la formation. On propose de la formation, donc on organise tous les ans des séminaires d'à peu près 3 ou 4 conférences. On vient donc d'organiser là le colloque international de la revue L'Autre à Caen il y a 4 jours là. Pourquoi on est un petit peu fatigué aujourd'hui. Et puis on propose aussi des modules de formation qu'on adapte au public auquel a affaire le professionnel sur une demi-journée, une journée, 2 jours.
Vous parlez de médiation et de cas où des patients ne veulent et ne peuvent pas, selon leur représentation, prendre des traitements. Comment ça se passe, une médiation de ce type ?
Eh bien, dans le cadre d'une médiation, il est important de prendre le temps d'entendre vraiment tout ce qui se joue pour le patient au travers de la prise de ce traitement-là. C'est-à-dire quelle représentation il a déjà de son trouble. On en revient toujours à ces fondamentaux-là, hein, qui sont la question du sens. C'était d'ailleurs pourquoi c'était le thème du colloque, hein, parce que la question du sens, elle est vraiment fondamentale en clinique transculturelle. Donc on va vraiment prendre le temps que le patient puisse dérouler tout ce qui fait qu'il a cette position-là jusqu'à présent. Et parfois, dans l'urgence de la médecine, etc., tout ce travail-là n'a pas été fait. Et ensuite, pareil, au médecin de dérouler effectivement son point de vue et on va essayer de co-construire en quelque chose qui puisse fonctionner pour le patient. Par exemple, parfois, si c'est un patient qui se... Là je sors du cadre précis de la médiation, mais d'une façon plus générale, si on a affaire à un patient qui a besoin d'un rituel de protection par rapport à ce qui lui arrive, lui, il pense qu'il est ensorcelé, admettons, et qu'il a besoin d'un rituel de protection par rapport à cet ensorcellement, il va falloir faire en sorte que ce rituel puisse avoir lieu, en plus de la thérapeutique qui est proposée ici. Il va falloir les deux. Et c'est ça qu'on va négocier, en fait, avec le patient.
Et donc, vous allez pouvoir faciliter la réalisation de rituels pour le patient.
Alors, on n'intervient pas dans la mise en place du rituel lui-même, mais c'est comment autoriser le patient à avoir recours à ce rituel et puis comment négocier qu'il puisse avoir lieu. Parce que parfois, le rituel ne peut pas avoir lieu en France pour tout un tas de raisons. Il y a des choses qui, en France, ne sont pas légales ou il y a des produits qu'on ne peut pas avoir. Donc, ça va être comment on va négocier avec le patient quelque chose qui va s'approcher du rituel et qui va lui permettre d'avoir un sentiment de protection. Et ça, c'est facilité en consultation par la présence d'éco-thérapeutes qui viennent eux-mêmes d'autres univers culturels et qui vont pouvoir alimenter en disant ben moi dans mon pays voilà comment on fait, dans mon pays voilà comment on fait, et du coup ça donne d'autres idées, d'autres choses possibles pour le patient. On est dans la négociation.
Et en France, quelle place on donne aux théories étiologiques des causes de la maladie?
En France en général, je ne sais pas trop répondre à votre question, je pense que malheureusement, à part en clinique transculturelle, on a tendance à pas y donner grande importance ou à parfois être dans un discours un peu condescendant de leurs croyances, leurs choses, leurs représentations, alors que c'est vraiment d'une grande richesse et c'est très formateur, y compris pour les professionnels de s'en occuper. Donc, je pense que l'idée, c'est de leur donner une place de plus en plus large. Et je pense que la psychiatrie transculturelle est en essor. Elle se développe. Mais c'est vraiment important d'en parler et je vous remercie vraiment de cette invitation parce que on peut avoir des représentations comme quoi ces consultations-là sont un petit peu luxueuses, coûteuses. Il y a vraiment plusieurs professionnels autour du patient, mais c'est un petit peu une vision à court terme de se dire ça va coûter trop d'argent de mettre en place une consultation transculturelle. On se rend compte qu'à long terme, c'est vraiment bénéfique puisqu'on va éviter vraiment des récidives, des hospitalisations, etc.
Et aujourd'hui, il y a une demande croissante de ce type de thérapie ou c'est encore trop méconnu comme vous l'évoquiez ?
Je pense que la demande est de plus en plus importante. Bon, la France est un pays de plein de cultures hein, et donc je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se retrouvent confrontés à ces questions-là et qui peuvent se sentir un petit peu démunis hein, s'ils ne sont pas outillés. En fait, la clinique transculturelle, elle outille le professionnel dans l'accueil et le soin.
Et alors là, on parle à l'échelle française, mais est-ce qu'on a des exemples d'autres pays où la psychologie transculturelle a une plus large place dans le système de santé ?
Alors, comme je le disais, ça s'est surtout développé au départ aux USA et au Canada, où là, ça a une grande place. En Europe, c'est plus récent, mais néanmoins, ça s'agrandit, c'est de plus en plus courant. Il y a pas mal de pays d'Europe qui maintenant ont des consultations transculturelles. Le plus récent à en avoir mis en place, c'est l'Italie. Enfin voilà, on voit que ça prend essor.
Merci beaucoup Frédéric Briens-Fouquet, pardon, d'être venu à notre micro. On le rappelle, vous êtes psychologue et éco-thérapeute de la consultation transculturelle de l'EPSM de Caen. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Mercredi 4 juin, le CPIE Vallée de l'Orne invite petits et grands pour son atelier Oulala les papillons. Bleu azuré, tabac d'Espagne, macaon, qui sont ces animaux ? Venez les capturer et les découvrir à l'aide de filets à papillons sur les rochers de la Houle. C'est gratuit et accessible dès 5 ans. Vous pouvez réserver par mail à ens14@cpievdo.fr ou bien en appelant au 07 83 10 01 29.
Ce mercredi, le Conservatoire botanique de Normandie organise une sortie nature à l'occasion de la belle saison des conservatoires botaniques nationaux. Vous y découvrirez la diversité végétale et fongique des pelouses calcicoles des jardins partagés de Venois. L'événement est gratuit et accessible à tous, alors rendez-vous mercredi 28 mai de 14h à 16h dans les jardins partagés. Pensez à vous inscrire à l'adresse info@cbn-normandie.fr.
Et enfin, jeudi 5 juin, rendez-vous pour la conférence Nicolas Oresme et Pierre Varignon, des savants entre la Normandie et Paris. À l'occasion du millénaire, venez découvrir ces deux illustres scientifiques d'origine normande, une conférence en entrée libre présentée par Pierre Aguéron et Catherine Ledésert. Ce sera donc le 5 juin à 17h30 à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui, mais également pour cette saison. Un grand merci à tous les chercheurs, docteurs et membres d'associations qui ont échangé avec nous cette année, mais également un grand merci à vous de nous avoir suivis.
Et on salue bien sûr Émile à la régie et Anaëlle et Emmanuel qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison. J'ai été ravie de me retrouver derrière le micro chaque mardi avec toi, Cindy, et on te retrouve évidemment à l'antenne ce jeudi pour ta dernière émission Fake News.
Merci Rose, c'était également un plaisir de co-animer cette émission avec toi. C'est pas faux, ça reprendra en septembre pour une toute nouvelle équipe, avec une toute nouvelle équipe. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Et dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.